Nous savons que depuis notre baptême, notre vie a une finalité qui est surnaturelle et que Dieu nous donne, par ce don de la vie surnaturelle, une invitation à ce qui est comparé dans la Sainte Écriture elle-même à des noces éternelles et pour lesquelles il est indispensable d'être revêtu de la robe nuptiale. Souvenez-vous de cette parabole, cette robe nuptiale qui représente la grâce, la vie de la grâce. Pourquoi ? Eh bien parce que la grâce nous revêt d'un état nouveau, c'est notre état, c'est tout notre être qui est enrichi de la vie divine. Et avec cet état nouveau, cet état divinisé, nous allons pouvoir agir, agir divinement. Et dans cet agir divinisé, nous allons partager la vie divine, et ce partage de la vie divine, c'est cette charité. Or, l'un des moyens privilégiés dont nous disposons pour à la fois entretenir, conserver, mais aussi, s'il le faut, retrouver cette vie de la grâce, eh bien, c'est la prière. Nous savons que par la prière, nous pouvons entrer davantage dans cette vie divine, parler à celui qui est la source de cette vie divine, puisque c'est Dieu. Et la prière, sous diverses formes, et nous aborderons aujourd'hui la prière en général, et puis la prière particulière qu'est l'oraison ou la méditation. La prière, c'est un contact privilégié que nous avons et qui nous est donné d'avoir avec Dieu. Nous n'avons pas un Dieu éloigné, un Dieu qui ne s'occupe pas de nous, comme le pensaient certains philosophes ou à certaines époques. Dieu créateur éventuellement, mais c'est tout. Dieu auteur de la nature, et puis se moquant éperdument de ses créatures. Non, nous avons un Dieu qui est le Dieu unique. Et ce Dieu unique n'est pas indifférent à ceux et à celles qu'il a créés. Il leur a même donné la possibilité de lui parler. Et cette prière que nous apprenons petits, généralement, eh bien, c'est effectivement une bonne habitude de que la créature s'adresse à son Dieu, qu'elle élève son âme vers son Dieu, et ce pour différents motifs. Trop souvent, nos motifs sont intéressés. Nous prions pour demander. À tel point que certaines personnes, certains enfants, en tout cas, ne savent, quand ils n'ont rien demandé, ne savent pas comment prier. Ils se disent, ben voilà, j'ai rien à demander, donc tout va bien, donc pourquoi prier? Alors c'est quand même très réducteur comme conception de la prière. Mais ça arrive. Alors, c'est peut-être justement parce qu'il n'y a pas eu formation d'éducation à la prière dans toute sa richesse. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la prière? Par la prière, on trouve Dieu, avant même de demander quoi que ce soit. Par la prière, on trouve Dieu, on lui rend l'honneur qui lui est dû. On lui rend grâce du fait même de pouvoir lui parler. On pourrait prier pendant des heures s'il le fallait, s'il en pouvait, en le remerciant de pouvoir lui parler. Imaginez cet honneur qui nous est fait à nous de pouvoir nous approcher, pour prendre une image connue, du trône du roi. Pensez à ces représentations qu'on a pu faire de rois un peu inaccessibles et qui ont l'honneur d'approcher des sujets qui ont l'honneur d'approcher le roi. Et chacun, même s'il ne s'il ne sait pas ce qu'il va lui dire, parce qu'il va être impressionné, sera tout content d'être devant lui. Hein, c'est le principe des visites des personnalités. On perd peut-être ses moyens, mais on est content d'être devant lui, de pouvoir lui dire bonjour, si ça se résume à ça. Nous, nous pouvons faire plus, et pourtant, c'est quand même un petit peu comme ça aussi. Il y a véritablement cette reconnaissance que nous devrions avoir de pouvoir nous adresser à ce Dieu, et qui, lui, n'est pas indifférent à nous, qui ne nous traite pas comme un numéro de visiteur, mais qui véritablement nous aime et nous écoute. Et même si nous n'avons rien à lui demander, il écoute notre cœur qui veut s'ouvrir à lui. On lui rend honneur donc, on lui rend grâce, et puis aussi on peut lui demander ce qui nous est nécessaire, bien entendu. La prière est aussi une demande, et à tel point que Dieu nous a, lorsqu'il nous a appris à prier par Jésus, son Fils, les apôtres demandent à Jésus comment faut-il prier, eh bien il leur enseigne le Notre Père. Eh bien, nous avons dans le Notre Père, j'y reviendrai tout à l'heure, le résumé, mais surtout l'ordre de la prière. Et nous voyons que, effectivement, il faut demander des choses. Demandons notre pain de chaque jour, notamment. Mais cette demande du pain de chaque jour, donc c'est bien nécessaire de se nourrir. On a été fait de telle sorte qu'on est obligé de se nourrir. Et qu'il n'est pas toujours faisable, facile de le faire. Même si nous sommes dans des civilisations de facilité, dans la plupart des cas, il peut arriver que certaines personnes aient du mal à trouver, même au point de vue matériel, simplement le nécessaire. Eh bien, Dieu nous demande d'être dépendant de lui et de lui demander. Mais cette demande n'arrive que tardivement dans le Notre Père. On ne commence pas par cela. Que votre nom soit sanctifié, voilà la première demande. Et on voit bien que la prière est avant tout en l'honneur de Dieu. Voilà le premier rôle, la première dimension de la prière. J'y reviendrai tout de suite. Donc on peut demander ce qui nous est nécessaire, Dieu attend cela, et Dieu fait en sorte que nous ayons à demander cela. Souvent, nous nous trouvons dans une indigence, quelle qu'elle soit, matérielle, mais souvent spirituelle, difficulté, épreuve. Et, de ce fait, nous nous rendons bien compte que nous n'allons pas pouvoir continuer à vivre sans demander un secours à celui, la seule, qui peut nous donner la solution à nos problèmes, et donc à prier Dieu. Enfin, par la prière, on grandit dans la charité. Je reviens à ce que je disais en introduction, cette charité de laquelle nous voulons vivre, et nous vivons par la grâce de Dieu, elle peut grandir, elle doit grandir. Cette intimité de vie avec Dieu, ce partage de vie, cette amitié divine, eh bien, doivent grandir. Et la prière est le temps, le lieu privilégié pour le faire. Ce n'est pas l'unique, mais c'en est un privilégié. Voilà ce qu'est la prière. Et puisqu'on trouve Dieu dans la prière, eh bien, il faut savoir comment prier, puisque c'est un moment dans notre vie, le temps de la prière, qui est effectivement très important. La prière a été souvent définie par différents auteurs spirituels comme une élévation de l'âme vers Dieu. Voilà un beau résumé. Notre âme s'élève vers Dieu. Mais, c'est un petit peu vague. Et il faut voir le double but de la prière. Il faut bien le comprendre pour que nous apprenions à mieux prier. Puisque c'est si important que cela, que de prier, il serait bon d'avoir appris à prier. Le premier rôle de la prière, c'est de remplir un devoir de culte. Et là, on retrouve cette notion de rendre hommage à Dieu. Et quels sont les actes d'un culte que nous rendons à Dieu ? C'est l'adoration, c'est le remerciement, l'action de grâce, c'est aussi se reconnaître fautif envers ce Dieu qui a été bon et contre lequel on a peut-être mal agi. Donc c'est la demande de pardon. Et nous retrouvons dans ces hommages, dans cette adoration, dans cette action de grâce, dans cette demande de pardon, demande de miséricorde, eh bien nous retrouvons toutes les facettes du culte et toutes les facettes de la prière par excellence qui est le Saint-Sacrifice de la messe. La prière la plus parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, la plus totale, a été en tant qu'homme. De toute façon, il ne pouvait prier que dans son humanité, sinon il n'y a pas d'inégalité quant aux personnes. Mais la prière est un acte de la vertu de religion qui nous fait rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Et il y a donc cette dépendance envers Dieu qui est manifestée par les actes de religion. Et nous avons dans cette prière, dans ce culte qui est rendu à Dieu, de la messe, dans le culte de la messe, dans la réalisation du Saint-Sacrifice de la messe d'abord par notre Seigneur Jésus-Christ, et puis par son renouvellement par la messe, la prière la plus parfaite. Nous avons véritablement Jésus qui nous apprend et qui résume dans son sacrifice, eh bien, ce culte, cette adoration, cette action de grâce. N'oubliez pas que le mot Eucharistie veut dire action de grâce. Cette demande de pardon, non pas pour ses péchés, il n'en avait pas commis, mais pour les nôtres. Et puis, cette prière qui demande ce dont on a besoin. Donc ce rôle de culte est fondamental dans la prière. Et perdre de vue cela nous fausse notre façon de prier et entraîne peut-être tous ces défauts que nous avons, voire tous ces abandons que nous pouvons, auxquels nous pouvons nous laisser aller par rapport à la prière. Parce que nous avons faussé ce qu'est la prière, alors du coup, elle ne nous semble plus utile, elle ne nous semble pas agréable, elle nous décourage, etc. C'est certainement une fausse conception de la prière qui entraîne tout ce qui constitue ces péchés par rapport à la prière. Et il y en a malheureusement souvent. Alors, entrons bien dans cette compréhension de ce qu'est la prière pour ne plus justement se laisser piéger par l'ignorance, du coup, et qui entraîne l'abandon de la prière. Le deuxième but de la prière, après un devoir de culte, c'est effectivement les intérêts de notre âme. Mais c'est secondaire. La première chose que nous devons rechercher dans la prière, c'est remplir un culte envers Dieu, c'est-à-dire avoir ce désir d'être juste envers Dieu. Je le disais tout à l'heure, donc le culte que nous rendons à Dieu fait partie de la vertu de religion, c'est une vertu, et la vertu de religion, c'est la plus grande, la plus belle vertu de la vertu cardinale de justice, qui, vous savez que toutes les vertus morales se regroupent sous quatre vertus qu'on appelle cardinales, qui sont donc la prudence, la justice, la force et la tempérance. Je vous ai parlé de la force hier. Eh bien, là, c'est plutôt la justice, et la justice qui nous fait rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est une définition courante. Et là, nous voulons rendre à Dieu ce qui lui est dû. Alors, nous allons pratiquer des actes qui concernent Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la vertu de religion. La prière est un des actes de la vertu de religion. Mais gardons bien à l'esprit que c'est un acte de justice. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas cet acte, nous sommes injustes. Sous une certaine forme, mais nous sommes véritablement injustes. Donc gardons bien à l'esprit cette idée que la prière est avant tout le fait de rendre un culte à Dieu. Et ce culte que nous rendons à Dieu, eh bien, est bon, est juste, puisqu'il nous fait faire des actes bons et qui nous perfectionne dans la vertu de religion, elle-même une sous-partie, si vous voulez, de la vertu de justice. Mais demander des biens pour nous, même si ce sont des biens spirituels, parce que dans nos prières, on n'est pas uniquement à demander des choses matérielles, bien entendu, ce qui n'est pas interdit, mais même si nous demandons des choses spirituelles, c'est secondaire par rapport au fait de rendre un culte à Dieu. Alors creusons un petit peu ce secondaire, parce que ça nous étonne, nous qui avions tendance à mettre ça en premier. Et alors on se rassurait en demandant des choses pieuses, en demandant des choses spirituelles, qui nous disant, ben voilà, je demande des choses pour les biens de mon âme, on ne va pas me le reprocher. Mais non, on vous le reproche pas. Mais il faut comprendre que c'est quand même secondaire par rapport à la première finalité de la prière, qui est rendre un culte à Dieu. Alors oui, nous pouvons demander des choses à Dieu, et tout spécialement à réaliser notre salut. Ça, c'est la première et l'ultime demande que nous devons faire. Nous devons demander à Dieu de pouvoir collaborer avec sa grâce à la réalisation de notre salut, c'est-à-dire à la possibilité d'être récompensé éternellement pour avoir agi conformément à la volonté de Dieu, encore une fois, avec sa grâce. Et en même temps, du fait que nous allons solliciter la grâce de Dieu, que nous allons demander son secours constamment, parce que Dieu nous l'a demandé de le faire constamment, nous allons en même temps reconnaître la puissance de Dieu et reconnaître notre faiblesse. C'est ça qui est beau dans la prière, dans son aspect de demande, c'est que nous avons à la fois une manifestation de la toute-puissance de Dieu en laquelle nous croyons, sinon nous ne demanderions pas, si nous savions que nous ne pouvions pas obtenir. Donc en priant Dieu, nous disons à Dieu, seul, vous seul pouvez m'obtenir ce que je demande, sinon je ne vous le demanderai pas. Et en même temps, puisque je le demande, je vous le demande, je reconnais mon indigence, ma faiblesse, mon besoin. Et du coup, la prière, tout en étant sous un certain aspect intéressée, puisqu'on cherche à obtenir quelque chose, devient néanmoins un véritable acte de soumission et une affirmation positive de notre dépendance, puisque nous savons que si nous ne demandons pas, nous ne pourrons pas obtenir le salut, par exemple, pour ce qui est de la plus belle, la plus grande et la plus impérieuse des demandes que nous devons faire à Dieu. Donc comprenons bien que il n'y a pas de rupture entre le premier but que je vous ai donné de la prière, qui est d'honorer Dieu, et le deuxième, qui est de recevoir, chercher à satisfaire nos besoins spirituels et même temporels. Il n'est pas interdit de demander des biens temporels à condition que ceux-ci nous permettent d'assurer notre salut. C'est la seule condition que nous mettons à la demande des biens temporels. Il est évident que certaines choses sont nécessaires à notre vie, matérielle donc, et si nous ne les avons pas, nous pouvons peut-être mettre en danger notre vie physique, ou bien avoir un tel découragement ou une trop grande dépendance envers le matériel que nous risquerions d'abandonner justement la contemplation des choses divines. Alors, il est bon de demander aussi les choses matérielles, mais nous savons bien que nous conditionnerons notre demande au fait que cela serve à notre salut. Et parfois, nous sommes surpris que Dieu ne réponde pas favorablement à nos demandes, mais c'est Dieu qui sait mieux que nous ce qui est bon pour notre salut. Et peut-être que cette demande matérielle, ou même cette demande spirituelle, eh bien, n'est pas conforme au plan que Dieu a pour notre salut, et donc il ne va pas nous donner quelque chose qui ne serait pas bonne pour nous. Voilà pourquoi Dieu nous demande à la fois la persévérance, mais en même temps, donc il faut demander sans cesse, tant qu'on n'a pas reçu, et en même temps, cette confiance en Dieu qui sait mieux que nous ce qui est bon. Donc ne soyons pas surpris de ces apparents silences de Dieu face à nos prières. Ce n'est pas qu'il ne nous a pas entendus ou qu'il ne veut plus nous répondre. C'est bien au contraire, soit qu'il veut nous faire un petit peu persévérer, gagner en vertu de patience, de dépendance, soit que la demande que nous faisons n'est pas adaptée. Et généralement, il répondra d'une autre façon. Et il répondra quand même, puisque le but que nous avions, même si nous avions mal demandé, c'était quand même d'obtenir notre bien. Donc nous obtiendrons notre bien, mais pas de la façon que nous avions prévu. Ça arrive souvent. Donc solliciter les grâces de Dieu, que ce soit dans le domaine spirituel ou temporel, est une affirmation véritable de notre dépendance, de notre soumission. Et donc nous rejoignons le premier but, qui est effectivement de rendre hommage à Dieu, de l'adorer, de reconnaître sa toute-puissance, de l'honorer en tant que l'être le plus parfait, le plus excellent. Donc les deux buts finalement se fusionnent. D'autre part, le fait de chercher à faire son salut, et donc de lui demander à Dieu de pouvoir faire son salut, eh bien, contribuera à la gloire extérieure de Dieu. Donc, vouloir son salut, c'est vouloir la gloire de Dieu. Et nous sommes à nouveau dans le premier but de la prière, rendre gloire à Dieu. Faire œuvre de religion au sens de la vertu de religion. Et si l'on comprend bien ce double but qui se fusionne, eh bien nous comprenons que pour le faire, nous devons entrer dans la religion de celui qui est le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que par l'incarnation, Jésus nous a montré le chemin à suivre. Et donc il nous a montré que c'est bien par lui que nous allons au Père. Il n'y a pas d'autre voie que lui pour aller au Père, il nous l'a dit. Et donc, que nos prières ne vont pas arriver directement à Dieu, si l'on peut dire, par une voie directe sans passer par notre Seigneur Jésus-Christ, comment peut-on oser croire que notre simple parole, même si elle est humble, même si elle est simple, pourra atteindre ce Dieu qui nous dépasse complètement et qui est ce Dieu parfait, ce Dieu tout-puissant. Nous allons entrer, comme pour la vie éternelle, par Jésus-Christ. Notre prière va entrer par celle du Christ pour arriver au Père, pour arriver, on pourrait dire, au cœur de la Trinité. Parce que, bien sûr, n'oublions pas que nous n'allons pas découper la Sainte Trinité et penser que seul le Père nous exaucera. Mais c'est l'ordre voulu par Dieu que nous prions par le Christ. C'est dans la prière du Christ que nous prions. voilà la prière qui sera garantie d'efficacité. Parce qu'elle aura revêtu les caractéristiques, et plus que cela, elle aura été la prière du Christ, eh bien nous aurons la certitude d'être exaucés. Encore une fois, pas forcément de la façon dont nous l'avons, nous, prévu avec nos yeux humains et notre faiblesse, notre façon de voir, qui était peut-être même dévoyée par des intérêts trop humains. Nous allons, en entrant dans la prière du Christ, être sûrs que cette prière, même si elle était imparfaite, sera purifiée, sera dégagée de tout ce qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Voilà le sens de notre prière, le sens au sens d'une direction qu'elle doit prendre. C'est dans la prière de Jésus-Christ que nous devons avoir ces actes d'adoration, de louange, d'action de grâce, de demande de pardon et d'imploration de grâce. Je le répète, tout cela se retrouve de façon la plus parfaite dans les quatre finalités de la messe. Alors je ne m'étends pas sur cet aspect-là, mais pensez-y, c'est la prière par excellence. Et donc notre vie surnaturelle, notre prière également, n'auront d'efficacité et de valeur aux yeux de Dieu que si cette prière est insérée dans celle du Christ. Soit réellement parce que nous sommes en état de grâce, donc nous participons à la vie du Christ, nous sommes membres vivants du corps du Christ, dont il est la tête, soit en appelant la miséricorde du Christ, si nous n'étions plus en état de grâce. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, comme le dit l'épreux au bord de la rue. À notre Seigneur. Alors, l'aveugle. Alors, nous avons dans cette connaissance qu'il faut avoir de la prière, voyez que c'est important d'apprendre à prier, de savoir comment il faut prier pour toucher Dieu. Et ayons à cœur d'avoir une prière qui soit d'abord un acte de culte, de reconnaissance, et ensuite une demande. Mais une demande qui elle-même doit être ordonnée à la gloire de Dieu. Et ça, ce n'est pas facile, parce que nous sommes intéressés, nous sommes utilitaristes, nous avons besoin, donc nous demandons, et nous, une fois qu'on a obtenu, ben c'est bon. Le marché est conclu. On a ce qu'on voulait et on repart. Vous voyez bien que si on limite notre vie de prière à cela, la recherche de la gloire de Dieu n'est pas là. Et en même temps, puisque nous nous approprions finalement un bien pour nous-mêmes, parce qu'il nous faisait défaut peut-être, mais parce que nous attribuons aussi le but de notre vie, c'est-à-dire que nous faisons de nous-mêmes le but de notre vie, et nous ne faisons pas de la gloire de Dieu le but de notre vie. Et là, on est en danger, puisque si nous ne sommes pas pour Dieu, mais pour nous-mêmes, nous sommes prêts à abandonner Dieu. Alors bien sûr, nous allons le prier, apparemment, puisque nous allons demander des choses à Dieu. Mais nous ne faisons pas de cette demande l'objet d'un désir de servir Dieu et de contribuer, dans la mesure de notre petite capacité, à sa gloire. Voilà ce qu'est la prière. Et je crois qu'il est important, surtout pour les mères de famille ou les éducatrices, d'éduquer les enfants dans ce sens de la prière, ne l'oubliez pas. C'est très important que très jeunes, les enfants apprennent et pratiquent la prière, et ça vous le faites régulièrement, mais qu'ils en comprennent le sens, qu'ils ne pensent pas simplement prière égale demander quand on a besoin. Ça, c'est important. Pensez à la prière publique de l'Église, c'est-à-dire celle qui est assurée par les ministres de l'Église, qui s'appelle le bréviaire, hein, l'office. Tous ceux qui sont dans les ordres majeurs, donc à partir du sous-diaconat, se sont engagés à réciter quotidiennement le bréviaire. C'est ce qu'on appelle la prière de l'Église. On met ce terme pour montrer que c'est au nom de l'Église tout entière que se fait cette prière. Or, ces textes, ces psaumes, ces lectures de l'Ancien Testament, ces capitules, ces petits extraits de la Sainte Écriture, ces hymnes, ne sont pas toutes des demandes. On voit bien que la prière, là, est beaucoup plus riche, beaucoup plus une louange. Il y a même une des heures qui s'appelle les louanges, ça s'appelle les laudes, laudes, en latin, c'est les louanges. Donc on a bien, dans cette prière publique de l'Église, le modèle de la prière. Et le modèle de la prière, c'est pas demander des choses dont on a besoin. Souvenez-vous de cela pour que votre prière ait aussi, alors soit parce que vous lisez, peut-être, certaines le font sans doute, des parties de la prière publique de l'Église, et c'est bien de s'y unir. Mais même si ça n'est pas le cas, que votre prière prenne cet aspect de louange à Dieu. Et on comprend alors comment on peut prier facilement. Parce qu'il suffira de vouloir louer Dieu à sa façon, y compris à sa façon, pour effectivement entrer dans cette prière du Christ. N'oubliez pas que les psaumes qui constituent l'essentiel de la prière publique de l'Église ont été récités, dits, priés par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors c'est beau pour un prêtre ou pour un sous-diacre, diacre, de pouvoir redire la prière du Christ, là, pour le coup, avec les mêmes mots. Même si c'était pas forcément la même langue, c'est la même prière, en tout cas. Alors, voyez, le sens de notre prière, le sens de votre prière, il faut vraiment s'attacher à cela. Alors, pour mieux prier, que peut-on faire? D'abord, je me répète, mais c'est volontaire, se souvenir que notre prière est avant tout un acte de religion. Déjà de s'en souvenir, de se le rappeler régulièrement, ça nous aidera à mieux prier. On se dira, ben voilà, je dois rendre un culte à Dieu, parce qu'il est Dieu, et à Dieu, on doit rendre un culte quand on est une créature. Or, je suis une créature, donc je dois rendre un culte à Dieu. Ne pas prier uniquement par goût, ou par intérêt, alors par goût, c'est important, puisque souvent il y a du dégoût qui nous fait abandonner la prière. Est-ce que la prière est une affaire de goût? Non. Que nous y trouvions du goût, tant mieux. On ne va pas refuser cette joie de prier. Mais si nous ne prions que pour en avoir du goût ou de la consolation, nous nous éloignons de la finalité de la prière. Pour mieux prier, dites-vous que à chaque fois que vous priez Dieu, vous vous rendez un rendez-vous avec votre Dieu, celui qui vous a créé, celui qui vous a sauvé. Et probablement, vous n'aimez pas rater de rendez-vous. Et donc, ne ratez pas les rendez-vous que Dieu vous donne dans la prière. Prière quotidienne. Celle du matin, celle du soir, celle, bien sûr, de la Sainte Messe, le dimanche ou en semaine, et en semaine peut-être. Ayez ce sens de l'exactitude, comme on dit qu'on ne veut pas rater un rendez-vous, donc on fait tout pour être à l'heure. Eh bien, ayez ce même sens du rendez-vous, de l'exactitude, pardon, pour Dieu. Il mérite bien plus cette exactitude et cette délicatesse que n'importe quel rendez-vous d'affaires ou d'amitié. Faites précéder vos prières d'un recueillement, c'est-à-dire d'une attitude de votre esprit qui essaye d'oublier ce qui vous préoccupait jusqu'à présent et vous concentre sur cette activité, cet acte que vous allez poser pour Dieu, qui est une prière. Et avant, plutôt que d'insister sur le fait que de vous dire « je vais prier », c'est dites-vous « je vais parler à Dieu, véritablement ». Comment est-ce que je vais me présenter à lui? Et éventuellement, qu'est-ce que je vais lui dire? Mais là, à la limite, c'est déjà secondaire. En revanche, ce qui n'est pas secondaire, c'est de préparer, d'avoir ce recueillement. Pourquoi? Parce qu'il va nous aider à être attentifs à la prière. Trop souvent, les distractions qui sont le poison de nos prières sont dues au manque de recueillement, à l'absence de recueillement. Et spécialement dans la méditation, je vais en parler tout de suite après. Cette attention à nos prières, dans notre prière, elle a trois aspects. Et si on essaye de faire un effort sur au moins l'un des trois aspects, et successivement si possible sur les trois, enfin cumulativement sur les trois, eh bien nous prierons mieux. Le premier, c'est d'être attentif aux mots que nous allons employer. C'est surtout le cas si nous employons des prières qui ne sont pas de notre cru. Bon. Lorsque nous disons un chapelet, les prières non seulement ne sont pas de nous, mais en plus elles se répètent. Eh bien, si nous ne faisons pas attention aux mots que nous prononçons, parce que nous les connaissons trop apparemment, ce qui est faux, eh bien nous allons vite perdre l'attention. Pourquoi je dis que c'est faux ? C'est justement parce que si nous les connaissions, ces mots que nous adressons à Notre-Dame et à Dieu, eh bien nous les répéterions à l'infini, et pour mieux les comprendre. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est justement, nous connaissons aussi la suite des mots qu'il faut placer les uns après les autres pour dire un « Je vous salue Marie ». Mais si nous en comprenions la richesse, nous serions encore plus lents dans la façon de les dire, nous ferions encore plus attention à les dire, et nous nous rendrions compte que nous n'avons toujours pas compris la grandeur de ces mystères que nous évoquons, ou même la profondeur de ces demandes que nous faisons. Attention aux mots, attention au sens des mots. C'est-à-dire que, bien sûr, on est habitué, alors on va vite, on a dit tous les mots, on n'en a pas oublié un, mais le sens nous a échappé. Vous voyez, donc d'abord la simple articulation, qui est, et en même temps le fait de poser des mots en essayant de vraiment les dire comme quand on s'adresse à quelqu'un, avec le désir d'être compris, et puis après donc au sens des mots. Et là c'est déjà plus dur. Et souvent, c'est l'Église qui nous aidera à mieux comprendre ces paroles. Et enfin, faire attention à qui nous parlons. Et cette troisième attention est la plus importante, puisque c'est d'elle que dépend véritablement notre prière. Nous allons, si nous sommes attentifs à celui à qui nous parlons, ou celle à qui nous parlons, Notre-Dame, eh bien, nous ne pouvons plus commencer à penser au temps qu'il fait ou à ce que nous allons faire après. Parce que nous sommes véritablement en train de prier. Donc, cette troisième attention est la plus riche, la plus importante, et celle qui doit être recherchée. Et pour la réactiver, parce que ça peut arriver, notre faiblesse, la fatigue, évidemment, ne nous aide pas. Eh bien, malgré nos faiblesses, nous allons essayer de revenir à retrouver le sens des mots, revenir à retrouver l'attention de celui à qui nous parlons. Eh bien, vous pouvez vous poser la question, et ça peut vous aider aussi pour le recueillement, mais à qui suis-je en train de parler ? N'hésitez pas, si vous priez seul, de faire une pause dans votre chapelet, de vous dire, mais à qui est-ce que je suis en train de parler ? Je parle à notre Seigneur, à Notre-Dame, au bon Dieu. Qu'est-ce que cela implique de ma part ? C'est là qu'on se rend compte que peut-être même notre attitude physique, corporelle, n'est pas conforme à celui ou à celle à qui l'on parle. Peut-être que mes regards, qui cherchent finalement la distraction, ne peuvent pas chercher Dieu en même temps. Vous voyez donc, à qui suis-je en train de parler? Et puis, que suis-je en train de lui dire? Qu'est-ce que je cherche à lui dire? Est-ce que je cherche véritablement sa gloire? Est-ce que je recherche véritablement? Est-ce que je demande véritablement ce que je suis en train de demander? Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Par exemple. Alors l'intimité de la prière nous sera facilitée, nous est facilitée du fait que, eh bien, Dieu a voulu se montrer comme notre Père, et il est notre Père, et il fait tout pour que ce soit, que cette prière soit facilitée. Lorsque nous disons notre Père, eh bien, nous avons déjà dit beaucoup de choses. C'est que nous sommes fils, filles, et que nous avons un Père duquel nous allons pouvoir tout obtenir. Là encore, nous commençons par le Notre Père avec cette reconnaissance de la toute-puissance, mais non pas une toute-puissance froide, distante, une toute-puissance qui se fait Père, et qui est donc prête, cette toute-puissance, à nous écouter, nous exaucer. Et ce qui attache l'âme à Dieu de la façon la plus sûre, eh bien, c'est l'oraison, la méditation. Elle est une des formes de prière particulière, mais elle est la plus riche de toutes, en tout cas dans celles qui dépendent de nous. Je mets de côté, bien sûr, la messe. L'oraison, c'est ce que certains auteurs ont appelé la respiration de l'âme avec Dieu. C'est-à-dire ce qui correspond pour notre âme à l'air dont nous avons besoin, l'oxygène pour respirer. Eh bien, l'oraison, la prière de la dans la méditation a ce rôle pour notre âme. Elle est aussi la preuve de l'amour de la créature pour son Dieu. Quand on aime quelqu'un, on cherche à être avec cette personne. On cherche à lui parler par tous les moyens. On cherche à la connaître et à vouloir ce qu'elle veut. On est à ses petits soins. Pourquoi la prière envers Dieu ne serait-elle pas comme cela? Pourquoi nos prières ne seraient-elles pas comme cela? L'oraison, c'est tout cela à la fois, c'est cet élan vers Dieu, cette preuve d'amour et en même temps cette recherche constante de Dieu. Alors, vous avez sans doute, ne serait-ce que dans la retraite, essayé, fait oraison, et ça n'est pas facile. Il y a une espèce d'éducation à l'oraison, à la méditation. L'oraison mentale, ça n'est pas une simple spéculation où on réfléchit pendant 10 minutes, 15 minutes sur un sujet donné, sur une vérité. Oui, il y a une recherche de la vérité, d'une vérité par l'intelligence, mais c'est en même temps un élan d'affection, un amour qui nous pousse à mieux connaître et un amour qui nous pousse à vouloir ce bien que Dieu veut et qui est Dieu, que Dieu veut pour nous et qui est Dieu. Ça n'est pas uniquement donc une étude. L'intelligence doit être éclairée et une prière, une oraison, une méditation qui ne serait que sentimental ne sera pas enraciné, ne sera pas une véritable méditation, ce sera plutôt quelque chose d'un sentiment un sentiment pieux en nous-mêmes, mais où Dieu ne sera peut-être pas tellement présent. Mais si notre intelligence cherche à connaître ce Dieu sous différentes facettes, et est tellement riche pour nous, et riche en soi, que nous sommes bien loin d'avoir fini de méditer sur Dieu, sur sa bonté, eh bien donc, l'intelligence va devoir être éclairée, oui, mais il y a aussi surtout cette volonté qui va vouloir aimer, qui va vouloir scruter avec amour ce Dieu, pour l'imiter, pour le satisfaire, pour, je reprends l'expression que j'ai bien aimée de tout à l'heure dans le serment de midi, pour faire la joie de Dieu. La prière est particulièrement un temps où nous pouvons faire la joie de Dieu. Et je trouve cette expression très belle. Alors oui, nous allons pouvoir partir dans notre méditation des choses créées. C'est ce que font certaines personnes dans la nature. Elles voient la création, elles voient la nature très riche, très belle, et s'élèvent à partir de cette création à Dieu. Et c'est un début d'oraison, d'une certaine façon, un début de méditation. Mais il ne s'agit pas de se dire de façon un petit peu sensible, voire panthéiste, où finalement on est un petit peu immergé dans cette belle nature et on finit par se sentir divin. Nous ne sommes pas rousseauistes, mais nous pouvons commencer à partir de cette création à nous élever au Créateur. Oui, ça n'est pas impossible. Mais l'intelligence doit être guidée et l'amour doit venir enrichir, compléter dans cette connaissance de Dieu. Donc on voit bien que la connaissance naturelle ne sera pas suffisante. Il faudra qu'elle soit aidée de la foi. C'est un regard de foi que nous devrons porter, et ça, ce n'est pas la nature qui va nous le donner. Mais elle peut être l'occasion, le point de départ. L'imagination aussi nous aidera. Ne nions pas, ne dénions pas à l'imagination son pouvoir de nous situer dans une scène de la vie de Jésus. La composition de lieu dans les exercices de Saint-Ignace, eh bien, cette application de nos puissances, de toute notre puissance. L'imagination, mais aussi, bien sûr, l'intelligence qui va réfléchir et la volonté qui va vouloir goûter, aimer Dieu, contempler. Alors, si on comprend bien le but de l'oraison, eh bien, on va en éviter les écueils. Le but, c'est donc connaître les perfections de Dieu, l'aimer davantage, et puis prendre des résolutions qui seront toujours plus fermes pour persévérer à son service. On pourrait résumer ça en trois mots, connaissance, amour et action. Connaître, aimer et servir. Et c'est donc bien Jésus-Christ qui sera le meilleur des modèles, la meilleure des sources pour l'oraison, pour la méditation, c'est Jésus-Christ. Ne cherchez pas ailleurs un sujet de méditation, revenez toujours à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on voit bien, si l'on comprend tout cela, la sensibilité en revanche n'a pas grand rôle dans l'oraison, dans la méditation. Et il ne faut pas rechercher les consolations sensibles dans la méditation. Elle est véritablement une recherche de Dieu et non pas une recherche pour nous. Alors le premier temps de cette oraison, de cette méditation, on peut avoir, si on n'est pas habitué, prendre simplement la prière vocale, mais lente, lente. Les mêmes prières que nous pouvons connaître, celle du Notre Père, celle du Je vous salue Marie, celle du Je crois en Dieu, mais tellement lentement que on veut les digérer et repenser à ce que cela veut dire. C'est déjà un début de méditation. Et il est bon de commencer par là si on n'a jamais fait oraison. Dans un deuxième temps, la lecture spirituelle nous aidera à préparer une oraison. Une oraison, ça se prépare. Si trop souvent il y a abandon de la méditation quotidienne, c'est parce qu'on abandonne avant la préparation de la dite oraison. Donc une lecture spirituelle qui va préparer l'âme à découvrir et à méditer sur une vérité divine. Et là, déjà, notre volonté va vouloir scruter, mais notre volonté va vouloir imiter ce qui a été contemplé, ce qui va être contemplé, puisqu'on n'est pas encore fait oraison. Et une fois qu'on fait oraison, qu'on a pris ce temps le lendemain, par exemple, on prépare, l'idéal c'est de préparer la veille au soir, ce qui fait que ça nous permet déjà de, j'allais dire, nous endormir avec des idées plus ou moins précises, qui nous permettront le lendemain de mieux rentrer dans une oraison qui aura été préparée. Et donc, c'est cet esprit de foi qui va nous guider et qui va nous affermir dans la contemplation des mystères de la vie de Jésus, des vertus du Christ, des grandes vérités éternelles qui nous concernent, etc. Et puis, en troisième lieu, viendra certainement, avec la grâce de Dieu, cette oraison qui deviendra cette fois plus affective. On aura une certaine habitude de l'oraison, qui est plus attentive, plus où l'intelligence cherche à connaître. Et là, rapidement, l'union à Dieu se fera par l'habitude, et on sera beaucoup plus cœur à cœur avec Dieu, volonté à volonté, qui voudront justement notre volonté aura plus de facilité à trouver ce Dieu d'amour que nous voulons servir, que nous voulons honorer. Mais là, ne nous faisons pas d'illusions, c'est quand même une habitude qui viendra donc avec le temps et avec les efforts. Les dangers, je termine par là, les dangers qu'il nous faut éviter dans cette oraison, cette méditation, je reviens rapidement sur la recherche des consolations, avec un certain chantage dans la persévérance. Puisque je n'obtiens rien de ma prière ou de ma méditation, ni consolation, ni avantage, donc j'arrête. Ça, c'est le manque de persévérance, et c'est un des pièges du démon classique. Et à chaque fois, on verra que finalement, on se recherchait soi-même, on cherchait son intérêt propre, je l'ai dit. Et puis, un autre danger, il ne faut pas négliger, qui est l'orgueil spirituel. C'est-à-dire une élévation de soi-même et une auto-attribution des mérites, des progrès de la vie spirituelle que l'on voit bien être liés à cette oraison et à d'autres actes de notre vie chrétienne. Et du coup, on se voit déjà grand mystique et échafaudant les murs de la septième demeure de Sainte Thérèse d'Avila. Et donc, on est prêt de tomber dans ces cas-là. On est très prêt de tomber. Parce que justement, on a perdu Dieu depuis un moment, et on se fabrique sa petite sainteté à coup d'actions extérieurement irréprochables. Je fais mon oraison, je vais à la messe, je prie, etc. Mais où intérieurement, on commence à être la propre source de ces actes. Alors, remède contre ce danger qui est assez fréquent dans des âmes habituées à la vie chrétienne. Eh bien, il faut vérifier où l'on en est dans l'accomplissement du devoir d'État. Est-ce que je privilégie le devoir d'État à toutes ces petites actions pieuses qui sont bonnes, mais que je fais de moi-même? Si on voit qu'il y a plus d'actions que je fais de moi-même que activité du devoir d'État, déjà un mauvais point. Dans la patience, où en suis-je dans la patience, dans les petites épreuves quotidiennes? Je fais deux fois 20 minutes d'oraison, le matin et le soir, et dès que j'ai fini ma première oraison, j'éclate en colère parce que les voisins m'ont empêché pendant l'oraison de la faire, ou bien les enfants font quelque chose qui me déplaît et je découvre ça à la fin des 20 minutes d'oraison. Deuxième mauvais point, on n'est pas encore à septième demeure. Dans la lutte contre le défaut dominant, et là c'est l'examen de conscience qui vous y aide, ça peut rabaisser aussi nos prétentions de se dire, il y a encore quand même pas mal de défauts, il est probable que ça soit assez incompatible avec le septième étage. Dans le domaine dans lequel on s'est résigné à ne plus pouvoir changer les choses, est-ce que nous n'avons pas, au fond de notre âme, planqué sous des bâches, un défaut, une faiblesse sur laquelle on a mis « ne pas toucher, c'est irrécupérable » et de toute façon, je ne peux pas faire quoi que ce soit contre ce défaut, c'est dans ma nature. Si on a cet objet au grenier ou à la cave, on n'est pas non plus dans les états mystiques. Double rappel. Je termine en disant que les trois vertus de notre prière les plus importantes seront certainement ces trois mots qui résument notre état dans la prière, l'humilité, la persévérance et la confiance. Et c'est cela qu'il faut aussi demander dans nos prières. Voyez, je termine par la demande. Mais pourquoi nous le demandons ? Pour honorer Dieu. Nous nous rendons à la chapelle.